Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de notre débat hebdomadaire Patara sur Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux mécanismes de fonctionnement de la Cour pénale internationale dans le contexte de l'arrestation de Patrice Edouard Nguessona le mercredi 12 décembre en France suite à un mandat d'arrêt émis 5 jours plus tôt par la Cour. Selon le communiqué rendu public par la Cour pénale internationale, la chambre préliminaire 2 de la dite Cour a délivré le mandat d'arrêt à l'encontre de M. Nguessona le 7 décembre 2018 pour sa responsabilité pénale présumée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans l'ouest de la République centrafricaine entre au moins le 5 décembre 2013 et au moins en décembre 2014. Patrice Edouard Nguessona, en tant que plus haut dirigeant et coordonnateur général national des Antibalaka, serait responsable des crimes suivants prétendument commis dans différents endroits en RCA, notamment à Bangui, dans la préfecture de la Loba, Yaloké, Gaga, Boussomtélé, Boda, Karno et Berberati, du 5 décembre 2013 au mois de décembre 2014. Cette arrestation intervient après celle de Alfred Yekatom Rombo, l'un des anciens chefs de la milice Antibalaka, remis à la CPI le 17 novembre dernier. À Bangui, la société civile et les sympathisants de Patrice Edouard Nguessona ont dénoncé une justice à double vitesse, regrettant que la CPI ne se soit préoccupée que des miliciens anti-Balaka, alors que les combattants ex-Séléka ont continué à commettre de graves crimes à l'intérieur du pays. D'autres, par contre, craignent que ces vagues d'arrestations au sein des anti-Balaka deviennent source de nouvelles tensions dans le pays. Question: que vous inspire une telle arrestation à un moment où les principaux acteurs de la crise centrafricaine sont dans un processus du dialogue pour la paix et la réconciliation en préparation par l'Union africaine? Les mandats d'arrêt de la CPI ne visent-ils que les membres d'un seul groupe? Pour en parler, je reçois aujourd'hui dans ce débat M. Gaston Makuzangba, président de l'Action républicaine pour le progrès en abrégé ARP, ancien ministre. M. Gaston Makuzangba, bonjour.
Bonjour.
Magistrat Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, il est aussi ancien ministre. Magistrat Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Et Monsieur Michael, chef de bureau de la Cour pénale internationale en République centrafricaine. Monsieur Michael, bonjour.
Bonjour vous, bonjour tout le monde.
Herman Nambona à la partie technique de cette émission. Je suis Hippolyte Marbois à l'animation.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Monsieur Patrice Edouard Nguessona a été arrêté le mercredi 12 décembre en France suite à un mandat d'arrêt émis 5 jours plus tôt par la Cour pénale internationale. Alors, 5 jours plus tôt que ce mandat a été émis, Nguessona a été arrêté. Monsieur Michael, en tant que chef de bureau de la CPI à Bangui, est-ce que vous pouvez situer le contexte dans lequel voilà, cette arrestation a eu lieu?
Oui, bien sûr. Et merci beaucoup pour la question. Le contexte, c'est une patte, une étape dans la procédure de justice. Cette procédure a commencé en 2014, quand le pays a invité la CPI pour commencer l'enquête. Nous avons quelques années d'enquête par le bureau de la procureur, c'est indépendant. Cette enquête, et c'est confidentiel. Maintenant, nous sommes à une différente étape. Nous sommes à l'étape dans la procédure de justice. Et c'est toujours une procédure de justice. Et pas une procédure d'autres choses pour nous.
Ce n'est pas une procédure politique, c'est la procédure de justice. Ouais. Merci, monsieur, à vous. On va encore revenir en profondeur sur la question, justement. Monsieur Gaston Makuzangba, que vous inspire cette arrestation de monsieur Nguessona en France, alors que le mandat d'arrêt a été émis 5 jours un peu plus tôt?
Je comprends, monsieur Mac Cole. Effectivement, l'arrestation de Patrice Edouard Nguessona se situe en droite ligne dans une procédure judiciaire, une procédure judiciaire qui ne manquera pas d'avoir un impact politique. On ne peut pas dissocier les deux. Ensuite, je constate que l'arrestation de Nguessona en soi est un acte positif pour les défenseurs des droits de l'homme, pour tous ceux qui, comme moi-même, luttent contre l'impunité en République centrafricaine. Je suis moi-même pour l'impunité zéro en Centrafrique. Ce que je constate par contre depuis la création de la CPI, c'est que la CPI fait de la discrimination. Elle fait même parfois du déni de justice. Elle fait même des arrestations à caractère attentatoire aux libertés de certaines personnalités dans le monde. Et comme vous le savez, depuis la création de la CPI, ce sont massivement des dirigeants africains qui sont arrêtés ou en voie d'arrestation. Je note que l'ancien président Taylor du Liberia a été traduit en justice par la CPI. Jean-Pierre Bemba de la RDC a été également traduit en justice par la CPI. Bosco Ntaganda du Rwanda a été transé en justice par la CPI. Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Blé Goudé, a été traduit en justice. Béchir El Oumar du Soudan est poursuivi par un mandat d'arrêt de la CPI. Il n'est pas encore arrêté. Simone Gbagbo est sous un mandat d'arrêt international de la CPI, mais Alassane Ouattara refuse de la transférer à la CPI. Uhuru Kenyatta du Kenya et son vice-président ont été incriminés par la CPI. Ils ont déféré devant la CPI et ont bénéficié d'un non-lieu. Le président burundais, à l'heure actuelle, est également menacé de poursuites par la CPI. Vous voyez que ça fait trop pour les dirigeants africains. Il y a comme de la discrimination. C'est comme si il n'y a pas de crimes abominables dans le monde. Par exemple, en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, en Irak, où les bombardements sont souvent exécutés par les États-Unis, par la Russie, par la Grande-Bretagne, par la France. Donc, moi, je crois qu'il y a de la discrimination. Et aujourd'hui, l'arrestation de Ngaïsona est ressentie comme un coup dur par les responsables des anti-Balaka. Parce que Ngaïsona n'est pas le seul responsable des anti-Balaka. Cela est considéré comme une tentative de décapitation du mouvement anti-Balaka, qui, après tout, à mon sens, est avant tout un mouvement de jeunes centrafricains venus de l'arrière-pays pour défendre la patrie contre les mercenaires et les étrangers de la CELECA.
Même s'il y a eu des dérapages.
Il faut le reconnaître. Mais c'est quand même des centrafricains qui se sont soulevés à un moment donné où on ne voyait pas les magistrats, je m'excuse, M. Bindoumi, où on ne voyait pas de premier ministre, on ne voyait pas de ministre, on ne voyait pas de policiers, de gendarmes, de militaires, on ne les voyait pas. Ce sont ces jeunes-là qui ont fait face à la terreur CELECA pour desserrer les taux de CELECA. Et aujourd'hui, ceci est mal ressenti par les anti-balafrains et on comprend leur réaction.
D'accord, merci à vous, M. Gaston Makuzamba, magistrat Joseph Bindoumi. Aujourd'hui, Patrice Edouard Ngaïsona, on a vu que vous avez pris position pour vous inquiéter, n'est-ce pas, des conséquences que cela pourrait avoir. Comment vous réagissez à cette arrestation?
Je vous remercie. J'ai subi mes prédécesseurs. Effectivement, Patrice Ngaïsona a été arrêté le 12 décembre en France sous mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. En tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes unanimes que toute arrestation de quelqu'un qui a posé des actes est considéré pour nous une forme de lutte contre l'impunité. Et donc, nous ne devons pas nous plaindre d'une arrestation, mais nous devons vérifier en tant que défenseurs des droits de l'homme si les conditions de cette arrestation sont bien remplies. La première chose que je vais vous donner comme réponse, c'est dans quelles conditions la Cour pénale internationale peut intervenir pour un cas qui s'est passé dans un pays. Il y a trois conditions. La première condition, c'est que la personne mise en accusation soit un ressortissant d'un État partie à la Cour pénale internationale. Ça, c'est la première condition.
Elle est remplie, cette condition.
Elle est remplie parce que la République centrafricaine est État parti. Ouais. La deuxième condition, c'est que le crime supposé commis soit un crime réalisé sur le territoire d'un État parti. Et ça, cette deuxième condition est aussi
remplie.
Elle est aussi remplie. Et puis, la troisième condition, c'est lorsque le dossier de la cause a été transmis par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, nous ne sommes pas au courant c'était cette condition-là, il fallait remplir. Mais là où je voudrais insister, c'est que la Cour pénale internationale a seulement un rôle de complémentarité. Je signale ça en présence de la Cour pénale internationale, un rôle de complémentarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Cour pénale internationale ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales n'ont pas la volonté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de juger, ou bien que ces juridictions nationales ont décliné leurs compétences parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Donc, première condition, pour que la Cour pénale se saisisse d'une affaire, il faut que les juridictions nationales n'aient pas eu la possibilité ou la volonté de juger, ou bien n'aient pas eu les moyens pour le faire.
Et vous pensez que nos juridictions nationales ont ces moyens?
Je reviens tout de suite, parce que je voudrais conclure sur ce point. L'initiative en matière d'enquête, de jugement, revient aux États. Je voudrais que, devant la Cour pénale internationale ici, on souligne ça. L'initiative des enquêtes, des jugements, la décision de juger, de poursuivre, revient aux États. Maintenant, est-ce que la République centrafricaine, au moment où on a envoyé Alfred Yekatombe, puisque nous allons parler de tout ça à la fois, Alfred Yekatombe à la Cour pénale internationale, est-ce que l'État centrafricain n'avait pas les moyens de juger cette personne? La réponse est non, puisque la session criminelle se poursuit à l'heure actuelle, et au cours de cette session criminelle, M. Angelo dans la précédente cour criminelle avait été jugé pour les mêmes faits. Et donc, cette juridiction nationale aurait pu se saisir de l'affaire Hécatombe. Il en est de même que l'arrestation de Ngaï Sona à Paris, en France, pose le problème de est-ce que c'est l'État centrafricain qui a décidé de ne pas pouvoir être capable de poursuivre Edouard Ngaï Sona et que l'État centrafricain déclinait sa compétence à la Cour pénale internationale, ou bien c'est la Cour pénale internationale qui a dit « Moi, j'ai fait mes investigations, j'ai décidé que Ngaï Sona comparaîtra devant la Cour pénale internationale. » Voilà les réponses que je peux vous donner pour l'instant. Nous allons revenir en profondeur pour détailler ça, pour que les centrafricains soient éclairés, pour qu'on ne dise pas que c'est elle qui a voulu régler le compte de telle ou telle personne.
Merci à vous, magistrat Joseph Binoumi. Monsieur Michael, justement, on voudrait bien rebondir là sur les éclaircissements développés par magistrat Binoumi pour comprendre est-ce que la CPI a reçu des mandats ou une demande de la part de l'État centrafricain pour pouvoir procéder à cette arrestation de monsieur Ngaï Sona.
Merci encore pour monsieur Binoumi parce qu'en effet, il a donné la réponse déjà. Oui, nous avons reçu l'invitation de l'État.
De l'État centrafricain.
Oui,
en 2014. République
centrafricaine en 2014. Et il a lancé le processus. Oui, la procédure de justice. Une procédure, le mot clé est processus. Oui. Ce n'est pas seulement une étape. Il y a un processus, on doit suivre. Et le CPI suivre le processus sans considération de les choses autre que justice.
Oui,
Comprends bien l'idée que c'est difficile pour diviser la justice de la politique, mais c'est absolument impératif. C'est la possibilité pour les autres personnes pour parler de politique dans la procédure de justice, mais pour nous, nous sommes une cour de droit, nous sommes une cour de loi. Et c'est la vraie justice et la justice, simplement. Pas un mélange de justice et de la politique, parce que quand vous avez le mélange, vous n'avez pas la justice, vous avez la politique.
Ouais.
C'est simple. Je pense que c'est important pour comprendre la timelines en anglais. Pardon, je ne sais pas le mot en français. Dans tout processus, il peut y avoir plusieurs lignes d'opération. Oui? Ce n'est pas seulement une ligne d'opération. Toutes ces lignes ne procèdent pas à la même vitesse. C'est le monde réel. Et dans ce cas, la procédure de justice n'est pas séparée de Montréal. Ok, je comprends très bien. Ok, je fais l'opération ici.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale entend ce message? On sent cette espèce de frustration qui monte aujourd'hui dans le cœur des Africains. Vous avez suivi, le ministre Makuzangba a parlé au moins d'une dizaine d'Africains qui sont aujourd'hui poursuivis par la Cour pénale internationale. On n'écoute aucun nom européen là-dedans, ni asiatique.
C'est facile pour parler de beaucoup d'autres choses, mais je suis le représentant ici pour la Cour pénale internationale en République centrafricaine. Et je pense que l'audience voudrait parler de la République centrafricaine. Je pense que peut-être la question est un peu, comment on dit, mal posée. Okay? Il ne comprend pas bien le processus de la justice et le Montréal. Et encore une fois, je voudrais parler de le processus et le Montréal. Dans le Montréal, des occasions se présentent parfois la possibilité de prendre les opportunités. Okay. Et on doit prendre les opportunités. Okay. Et quand vous avez la possibilité d'arrêter une personne accusée des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, franchement, c'est une insulte aux victimes de ces crimes de suggérer que l'arrestation ne devrait pas avoir lieu.
Merci pour ces éléments. Justement, je reviens à vous, monsieur Binoumi, en tant que professionnel de droit aujourd'hui, monsieur Ngaï Sona serait pénalement responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour avoir été un haut dirigeant des miliciens anti-Baraka. Ces éléments vous convainquent-ils?
Non, je crois qu'il ne faut pas voir le problème sous cette forme-là. Le problème qui est posé aujourd'hui aux Centrafricains, ce n'est pas que Ngaï Sona ait dirigé les anti-Baraka. Parce que si on dit que Ngaï Sona a dirigé les anti-Baraka, on dit que la Cour pénale internationale ne fait pas bien son travail. Je vous donne une chose. Lorsqu'on a arrêté Alfred Hécatombe, on a dit que Alfred Hécatombe est un député chef de milice anti-Baraka. D'abord, la Cour pénale internationale ne reconnaît pas les députés comme justiciables devant la Cour pénale internationale. Les députés ne sont pas justiciables devant la Cour pénale internationale. On a dit que Hécatombe était un chef anti-Balaka. Hécatombe était seulement le chef de zone, c'est-à-dire dans la hiérarchie du mouvement anti-Balaka. Tous ceux qui ont signé le communiqué, tous ceux qui se sont déplacés au nom du mouvement anti-Balaka avec les Séléka pour aller chercher des accords, Hécatombe n'est pas dedans. Donc on a pris un petit poisson. C'est un criminel de droit commun comme Angelo qui a sa place ici à Bangui et qui devait ramasser la perpétuité ou la peine, je ne sais pas laquelle, mais il devait ramasser ça à Bangui. Ce n'était pas nécessaire d'aller remuer la Cour pénale internationale pour ça. Et puis maintenant, quand on dit Ngaïsona, on a pris Ngaïsona, mais quand vous regardez les accusations qui sont portées sur Ngaïsona, ça tient sur la Lobaye. Ça tient sur l'Ombelampoko et malheureusement, ça tient sur les zones de Rombo. C'est-à-dire, c'est comme si on a mis le filet, on a pris un petit poisson, on dit non, ce n'est pas celui-là que nous cherchons. Nous allons voir si on peut prendre. Pourquoi ? Est-ce qu'en tant que chef anti-Balaka, on n'a pas pris Ngaïsona pour des actes commis à Bosangwa, pour des actes commis à Bozoum, là où Alfred Hécatombe n'était pas. Est-ce que vous comprenez?
Donc, le Nana Bakassa, par exemple.
Nana Bakassa, je voudrais que nous regardions la meilleure façon de faire de la Cour pénale internationale. Je reviendrai et j'ai écouté le ministre Makozamba, mais quand vous regardez les pays qui sont concernés, à la date d'aujourd'hui, il y a 11 pays pour lesquels on a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale. Sur 11 pays, 10 pays sont africains, je peux les citer. Il y a l'Ouganda, il y a la RDC, il y a la RCA, il y a le Soudan, il y a le Kenya, il y a la Libye, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a la République centrafricaine à nouveau, et puis il y a le Burundi. Le seul pays qui n'est pas africain, c'est la Géorgie, pour qui on a commencé des enquêtes seulement en 2016. Donc il y a eu quelques réflexions de ce côté-là pour dire pourquoi. Et je reviendrai tout à l'heure dans le débat, puisque nous parlons de l'affaire Ngaïsona. Oui. Nous sommes aujourd'hui en train de mettre en route, puisque la justice n'est pas aveugle. La justice, elle n'est pas aveugle. Et c'est la raison pour laquelle on donne la primauté de juger les affaires pénales à la souveraineté des États. Et les États ne peuvent que décliner cette souveraineté pour donner à la Cour pénale internationale. Mais quand les États disent, nous, on veut prendre la feuille de route pour finir d'abord avec la guerre et punir les méchants. Et que parmi les personnes qui doivent signer l'accord pour finir la guerre, ce sont ces chefs de milice. Et puis qu'on les prend, ça veut dire que la feuille de route de l'Union africaine est pratiquement mise à terre. La deuxième chose, quand on crée une juridiction pénale hybride, telle que la Cour pénale spéciale, dont on a dit que la compétence de la Cour pénale internationale relève des crimes graves, d'atteinte contre des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et que sa compétence, au moment où on signait ce mandat d'arrêt, la Cour pénale spéciale avait déjà donné, le 4 décembre, sa stratégie de procédure d'enquête. C'est à ce moment-là qu'on rattrape Ngaïsona pour envoyer à la Cour pénale internationale. Ça veut dire que la Cour pénale spéciale n'a plus sa raison d'être. Est-ce que vous comprenez?
Il va falloir que elle ferme ses portes.
Je ne comprends pas. Parce que premièrement, il faut comprendre le droit, la loi. Et c'est clair. C'est clair, le relationship. Le CPI, ce n'est pas un substitut au système national. Ce n'est pas le complément. Ne pas enquêter et lorsque cela s'y justifie, poursuivre et juger des personnes que si l'État concerné n'a pas ouvert d'enquête, se trouve réellement dans l'incapacité de le faire. Et nous sommes dans cette situation parce que nous sommes à une étape dans le processus après 2014. On doit mettre la situation aujourd'hui dans le contexte de l'histoire aussi. L'histoire de l'enquête, l'histoire de le processus de justice. Oui, mais quand on parle de le petit poisson, je me réfléchis un peu sur les victimes. Pas un peu, une grande. Je pensais de les victimes beaucoup de temps. Parce que tout le monde parle de les accusés. Pratiquement personne, pendant le dernier jeûne, parle beaucoup de les victimes. Et si vous êtes une victime d'un petit poisson, un grand poisson, vous êtes une victime. Et pour l'environnement de la Rome Statute, de CPI, la victime, c'est le centre de le processus. processus.
Oui, nous attendons que les victimes sont au centre du processus pour la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui, beaucoup de Centrafricains s'interrogent du fait que la CPI ne semble avoir qu'une seule ligne de combat, ne s'intéresse qu'à un seul groupe, alors que l'autre groupe en face, allusion faite aux ex-Séléka qui continuent de courir, dont les leaders continuent de courir. Pourquoi la CPI n'arrête pas jusque-là, voilà, des ex-combattants, encore des chefs de guerre Séléka qui continuent de sévir, Monsieur Michael?
Connaissez le travail de la bureau de la procureur, c'est le travail confidentiel et indépendant. C'est la question que vous avez présupposée que c'est la question est vraie. On ne connaissait pas. On doit attendre la mandataire.
D'accord. Okay. Bon, merci. Nous attendons. Monsieur Gaston Makuzamba, nous avons suivi le magistrat Joseph Moudoumbi qui disait que la souveraineté, c'est au niveau des États parties. Aujourd'hui, est-ce que l'État centrafricain est-il obligé d'autoriser la CPI à porter et Rombo et Nkaissona aujourd'hui?
Avant de répondre à cette question, je voudrais dire à Monsieur Mike Cole que la présence du bureau de la CPI en Centrafrique, c'est comme les yeux de la CPI en République centrafricaine. Mais j'ai comme l'impression que vous ne regardez pas dans toutes les directions. C'est ce que venait de dire le journaliste. Vous voyez, dans le même temps qu'un mandat d'arrêt a été lancé comme Patrice Edouard Nkaissona, le 7, le 12, 5 jours après, le mandat a été exécuté. Au cours d'un voyage à Paris, le monsieur a été arrêté grâce au concours de la France. Je reviendrai sur la question de la responsabilité de la France et de l'État centrafricain dans l'arrestation de Patrice Edouard Nkaissona. Parce que ça me paraît très important. Et donc, je vous dis pour vous, vous ne regardez pas dans toutes les directions. De la même manière que c'est en 2013 que la coalition Séléka a pris le pouvoir brutalement, en tuant, en massacrant, en pillant, en incendiant, en violant. De la même manière, c'est le 5 décembre 2013 que les anti-Baraka ont déclenché leur insurrection contre la coalition Séléka. On peut dire que c'est un mouvement patriotique, même s'il y a eu des dérives. Et c'est ce que je pense. La confidence que je voudrais vous faire, monsieur le représentant de la CPI, c'est que Patrice Edouard Nkaissona était un ami pour moi, un frère. Deux semaines avant son arrestation, il m'a fait une confidence. Je vais vous la livrer texto. Il dit, monsieur le ministre, c'est comme si la CPI a demandé au président Touadéra de procéder à mon arrestation et de me livrer à la CPI. Il dit, mais qu'a répondu le président Touadéra? Il me dit, texto, le président Touadéra dit, je ne l'arrêterai pas, vous pouvez l'arrêter lors de l'un de ses voyages à l'étranger. Et effectivement, Nkaissona a été arrêté à Paris au cours d'un voyage. Donc il y a une responsabilité grave de l'État centrafricain. Aujourd'hui, la RCA a les moyens de juger sur place n'importe quel type de criminel. Nous ne manquons pas d'histoire. Bokassa a été considéré comme un grand dictateur, un grand criminel, mais il avait été pourtant jugé par une cour criminelle à Bangui. Le procès avait été considéré comme un procès du siècle, avec des grands avocats comme Maître Nicolas Tiangaï, comme Maître Spinner, comme Maître Gibault. On a considéré ce procès comme un procès du siècle. Ça a été organisé par des magistrats centrafricains, avec un panel d'avocats venus de l'étranger pour défendre l'ex-empereur Bokassa. Parce que même le plus grand criminel du monde a droit à la défense. Nous avons un exemple que l'État peut user de sa souveraineté pour juger n'importe quel type de criminel sur son territoire. Et qu'à un moment où la CPS est mise à place, si Nkaissona a commis des crimes contre l'humanité
ou des crimes de guerre,
il pouvait parfaitement être jugé par la CPS. Il ne pouvait pas être livré de cette manière-là. Autre chose qu'il faut que vous compreniez, il y a un faux débat ici en Centrafrique qui vise à dire, quand vous lisez certains journaux ou quand vous lisez certains tracts qui sont abondamment distribués, c'est que c'est la France qui veut tenter un coup d'État contre le président Touadéra, qui veut octroyer l'amnistie à tous les groupes armés. Mais curieusement, c'est cette même France qui met la main sur Edouard Nkaissona. Donc ce débat tombe à des études. C'est parfaitement un faux débat. Autrement dit, la France elle-même participe aux côtés de la République centrafricaine, de l'État centrafricain souverain, à la lutte contre l'impunité. Donc la responsabilité de l'État centrafricain est engagée comme la responsabilité de la France. Je termine en disant, loin de faire l'avocat du diable pour Patrice Edouard Nkaissona, je pense que nous parlons beaucoup de souveraineté et de légitimité en Centrafrique. Mais il faudrait que notre légitimité ou notre souveraineté nous serve à quelque chose. Nous serve à défendre nos citoyens, nous serve à fortifier nos institutions. On continue de tuer dans l'arrière-pays. Qui tue à Lindao? Qui tue à Ipi? Qui tue à Batangafo? Ce sont les éléments de la coalition Séléka. C'est Ali Daras qui est un démembrement de la coalition Séléka. C'est là où je dis que la CPI a des yeux, mais elle n'a pas des yeux dans toutes les directions.
Justement, merci Monsieur le Ministre Makuzamba. Oui, je vois Magistrat Bindoumbi qui pourrait bien réagir.
Oui, j'ai entendu la Cour pénale internationale nous indiquer les lignes qui sont suivies en ce qui concerne les poursuites. Et il nous a été posé la question assez pertinente de qu'est-ce que nous disons des victimes. Effectivement, mon organisation est une organisation qui défend les victimes. Mais attendez, disons-le clair, les victimes centrafricaines, à un moment donné de l'histoire, avec ce qui est arrivé dans l'affaire Bemba, où 5000 victimes ont été jetées sur le carreau, après 10 ans de procédure, les victimes n'attendaient plus que leur sort soit réservé à la Cour pénale internationale. La deuxième observation, je voudrais faire noter, c'est que les victimes veulent une sanction sévère des bourreaux. Or, la procédure pénale, le code pénal de la République centrafricaine, met des condamnations plus sévères que la Cour pénale internationale. Vous savez que la Cour pénale internationale condamne à l'emprisonnement, y compris à l'emprisonnement à vie. Ça veut dire que vous êtes avec votre téléviseur dans votre chambre et tout, vous restez là. Alors que le code pénal de la République centrafricaine condamne en matière criminelle à des travaux forcés. C'est plus fort que à la Cour pénale internationale. C'est plus fort. Et les victimes centrafricaines pensent que c'est mieux qu'ils soient en présence de leur bourreau et qu'ils attendent la sentence prononcée contre leur bourreau par rapport aux faits qui ont été commis sur le territoire national. Et nous, nous encourageons la primauté du droit pénal national parce que ça relève de la souveraineté des États. La deuxième chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est que la justice, moi je suis juge professionnel, la justice n'est pas aveugle. Elle est aveugle quand elle ne distingue pas les sexes et les autres, mais elle tient compte de l'État. Lorsque vous exécutez une procédure entamée en 2014, vous l'exécutez en 2018 et qu'au moment où le 12 décembre, vous exécutez un mandat d'arrêt contre un groupe alors qu'au même moment, Alindao brûle, Ipi brûle, Batangafo brûle, commis par un autre groupe. J'ai dit clairement que c'est comme si vous voyez deux volcans, un en éruption, l'autre éteint et puis vous allez dégager des populations autour du volcan éteint, et puis vous les laissez autour du volcan en éruption. Et donc nous pensons que l'intérêt du bureau de la Cour pénale internationale à Bangui, c'est de regarder et de dire au bureau du procureur là-bas que voilà la situation ici, c'est que les UPC, les FPRC sont en train de brûler à Bambari, sont en train de brûler à Alindao, sont en train de tuer à Ipi, ont tué des prêtres, et que ce n'est pas à ce moment-là que les anti-Balaka qui se sont un peu calmés soient recherchés.
C'est un peu difficile, oui. Une main dit, ah, c'est pire. Non, c'est pas pour vous. Mais une autre main, pourquoi vous ne faites rien dans cette situation? Alors, je pense que c'est important pour comprendre le bureau ici. Le bureau de la CPI ici, je suis le représentant de la greffière. La greffe, c'est neutre dans le processus. Okay, vous êtes membre d'une ONG de droits de l'homme. Okay, le droit de suspect devant la CPI, c'est important. Le droit de les victimes aussi.
C'est ça.
C'est important que nous sommes neutres dans notre approche et nous ayons donné le soutien pour la défense et les prosecutions. C'est l'essence de la procédure criminelle. Le suspect est présumé innocent. Il est présent dans la salle d'audience lors des débats, sauf qu'il en est exempt par les juges. Oui. C'est l'essence du processus de justice et c'est la raison que la justice doit être aveugle. C'est absolument impératif. Si vous n'avez pas prendu une message d'aujourd'hui, le message clé, c'est la justice et la justice, simplement.
La justice et la justice.
À la politique. Et ouais. Je pense, comme je disais avant, la question s'est un peu mal posée. Reformuler la question en termes de justice. Parce que,
mais vous parlez de quelle question mal formulée?
Oui. So, en termes de justice, je préfère demander quel type de système de justice voulez-vous? Quel type? Est-ce que c'est un système au rang, confession, la religion, l'appartenance à un groupe ou à un autre, ou allégeance politique pouvant influencer le processus de justice?
Non,
est-ce que vous voudrez cette approche? La question c'est rhétorique, oui.
C'est pas le sujet de notre débat. On voudrait bien comprendre le mécanisme de fonctionnement de la CPI. Nous entendons que vous insistez, Monsieur Cole, sur la place qu'occupent les victimes dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale.
Vous vous souvenez les mots sur l'emblème centrafrique? Les mots sur l'emblème centrafrique, c'est quoi?
Alors Zucchezo.
La devise.
Est-ce qu'aujourd'hui, les victimes qui intéressent la CPI ne sont que des victimes des anti-Balaka? Voilà ma question.
Je vais demander.
C'est la question à moi?
Oui.
J'ai dit encore une fois. Le moment ont introduit la distinction entre un groupe de défense, SLK, BALAKA, un groupe confessionnel. Vous avez perdu la route clé. Et c'est la raison, c'est important pour reformuler l'approche.
D'accord,
de
c'est quoi
votre
la bonne
attention.
Route?
Je pense la réponse de la question, on doit regarder l'ambiance centrafricaine. Vous avez les mots, oui. Zokezo, je pense que c'est Sango, mais mon Sango, ce n'est pas bien. Un homme et un homme. Tout le monde est un peuple. Il n'y a pas de division. Pas de division sur l'emblème. Il n'y a pas de division dans le processus de justice. C'est simple, c'est clé.
Ok, mais oui. Malheureusement...
Bon, je crois que le débat...
Moi, j'ai fait dormir avant le ministre Makuzambo.
Oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends la parole, la Cour pénale ne me regarde pas.
Non.
Parce que, vous savez, en mai 2013, il n'y avait pas le mouvement anti-Balaka. Mai 2013, je me suis trouvé à Istanbul, en Turquie, au congrès de la Fédération internationale des ligues de drones. J'ai rencontré le procureur de la Cour pénale internationale. J'ai dit au procureur de la Cour pénale internationale, il y a des massacres qui se passent en République centrafricaine. Je vous prie, madame le procureur, de faire une descente en République centrafricaine. Peut-être votre existence calmera la violence des SLK qui sont en train de tuer. Ou bien déclencher maintenant des actions connues pour qu'on dise la Cour pénale est là et que les gens s'abstiennent de faire du mal. Nous avons entendu. En 2017, quand la procureure de la Cour pénale internationale est venue à Bangui, nous lui avons répété quand elle nous a reçus. Nous lui avons dit, écoutez, vous voyez l'hécatombe. Vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, vous venez pour regarder le nombre de morts. Nous vous prions, si vous pensez que la Cour pénale internationale peut faire quelque chose, faites-le maintenant. 2017, nous sommes en 2018. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, nous étions des enquêtes, nous défendons les victimes, mais du moment où on avait parlé au procureur et les nombres de victimes qu'on a eues à Lindao, qu'on a eues à Ipi, qu'on a eues à Batangafo, si la juridiction pénale universelle, qui est la Cour pénale internationale, avait réagi, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là. Voilà les observations que je voudrais faire auprès de la Cour pénale internationale.
Vous avez raison, c'est intéressant.
Ok, Président Makuzamba.
Oui, nous sommes là pour parler effectivement du fonctionnement de la CPI. Je note que, il faut que je le dise, que la CPI fonctionne très mal. Plusieurs procès l'ont démontré. Et si aujourd'hui, on est en train de vouloir libérer Blegoudé et Gbagbo, c'est que le bureau de Mme Bensouda ne fonctionne pas bien. Si Jean-Pierre Bemba, qui a fait des victimes, 5000 victimes, en RDC, a bénéficié d'un non-lieu, c'est que, en Centrafrique en plus, c'est que le bureau de Mme Bensouda ne fonctionne pas très bien. Je ne sais pas comment, puisque Patrice Edouard Ngasiona, pour l'instant, est présumé innocent, je ne sais pas comment ce même bureau va démontrer sa culpabilité dans les crimes qui lui sont reprochés. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il va falloir que Bensouda démontre que M. Ngasiona est un général qui a pris les armes à la tête d'une troupe qui a ordonné de tuer ici, d'égorger là, d'éventrer ici et de faire la preuve de ces crimes-là. Je crois qu'une fois encore, comme dans les cas de Jean-Pierre Bemba ou même de Gbagbo, le bureau de Bensouda aurait des problèmes. Et je dis donc en conclusion que la CPI fonctionne très très mal, elle est dans le cas d'espèce de déni de justice.
Est-ce que le résultat qu'à la fin d'un processus, c'est le potentiel, qu'une personne est libérée? Oui, c'est un résultat possible. Oui, c'est la nature d'un processus de justice. Il n'est pas décidé avant que toutes les preuves soient entendues. C'est l'essence, oui, c'est l'essence d'un processus de justice. Ils ne sont jusqu'à prévu le contraire. So, est-ce que c'est une malfonction de la CPI que peut-être vous avez la possibilité pour être libéré? Non, pas du tout. C'est exactement l'opposite.
Et pendant ce temps, que faites-vous des victimes?
Les victimes, comme j'ai dit, les victimes sont à la centre de le processus de justice, au-dessus du statut de Rome. Okay? La victime a le droit pour témoignage, pour donner le témoignage, pour expliquer la souffrance de la victime. Cela me rappelle une victime qui a témoignage devant le tribunal. La raison qu'elle a fait était simple. Ces mots, c'est dans mon tête. Elle a dit, je veux que le monde sache ce qui s'est passé. Elle a dit, je veux que une personne spécifique est condamnée, elle voudrait que le monde sache la souffrance. Cette piste de la process au-dessous de la statue de Rome, c'est différente absolument de beaucoup de processus de justice. Vous avez aussi l'opportunité pour les victimes. S'il y a une condamnation pour les réparations, s'il n'y a pas de condamnation, vous avez la possibilité d'assistance, le mandat d'assistance, le fonds profité aux victimes. La victime est à la centre de le processus. Et c'est pour cette raison, pour moi personnellement, pas professionnellement, c'est une disappointment. Je ne sais pas le mot en français, excuse-moi. Du découragement qu'il n'y a pas de dialogue de la victime, mais seulement de l'accusé.
D'accord. Alors aujourd'hui, on sait que Patrice Edouard-Ngassouna, il est déjà arrêté et transféré à la CPI. Il fait partie des principaux leaders de groupes armés qui sont aujourd'hui dans un processus de paix piloté par l'Union africaine. Pendant ce temps-là qu'il va être arrêté, c'est quoi les enjeux de cette arrestation? Pourquoi cela arrive seulement à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un agenda caché?
Voilà, déjà entendu que oui, il a été arrêté en France. Mais il a arrêté par une paix, une interpartie de la statut de Rome. Cette paix a suivi la loi au-dessus de la statut de Rome. C'est simple. Oui, c'est en France. Mais c'est facile, oui. C'est très facile pour dire « Oh, c'est une conspiracy ».
On applique la loi, on sacrifie la paix.
Absolument pas d'évidence. C'est simplement, il y a un mandat d'arrêt, le greffier a soumis aux autorités d'une paix, d'une état de partie de la Rome Statute, le mandat d'arrêt, une demande en vue de l'arrestation. Et enfin, après le processus national, la remise de la cour.
Est-ce que ça ne pouvait pas attendre l'aboutissement de ce processus?
Comme j'ai dit, soit on doit prendre les opportunités. Est-ce que c'est possible dans le futur? Peut-être. Mais maintenant, nous avons l'arrestation. Nous avons fait. Et on doit prendre les opportunités dans la vie. Okay? On doit prendre les opportunités dans la main. Imaginez mon dialogue avec une victime de crime. Alors, vous avez l'opportunité pour faire l'arrestation, mais vous avez perdu cette opportunité.
Ok, merci. Oui, Président.
Je ne sais pas si le représentant de la CPI connaît la position des anti-Baraka aujourd'hui. Parce que je vous disais à l'entrée du jeu que la décision d'arrestation de Ngassouna a un impact politique majeur et sérieux. Les anti-Baraka ont réagi. Ils ont demandé, ils ont donné 48 heures à leur ministre au gouvernement de quitter le gouvernement. Incidence politique. Ils ont décidé de quitter le processus DDR. Incidence politique. Ils ont décidé de sortir du processus de l'Union africaine pour la paix. Incidence politique. Je vois donc qu'il n'y a pas de cohérence entre le processus de dialogue avec le groupe armé et la lutte contre l'impunité. Il n'y a vraiment pas de cohérence. Vous ne pouvez pas continuer de dueler avec le groupe armé et vous mettre à arrêter des chefs de groupe armé, soit disant pour appliquer la loi, le principe de l'impunité est zéro. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux, tant du point de vue de la communauté internationale, du point de vue du gouvernement et que du centrafricain lambda. Ou bien, on continue de tendre la main, de dialoguer avec le groupe armé, on va au bout du processus, comme venait de dire quelqu'un ici, ou bien on estime qu'on est flué dans ce processus de dialogue, on arrête le dialogue, on change de stratégie et on lutte contre l'impunité. En ce moment-là, on donne tous les moyens à l'armée pour rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, en commençant par lever l'embargo qui frappe la RCA depuis un certain temps. Mais on donne les moyens à l'armée nationale, dont la mission régalienne est de protéger les frontières, de protéger les populations, de protéger les ressources nationales. On donne donc les moyens à cette armée-là de libérer notre pays des mercenaires et des groupes armés. Il n'y a pas deux alternatives. Ou on fait la paix, ou on ne fait pas la paix.
Merci, Président Makuzamba. Oui, magistrat Joseph Ndoumi.
Bon, je voudrais vérifier une chose. Est-ce que la Cour pénale internationale était au courant que Patrice Edouard Ngaïsona était poursuivi devant la Cour criminelle de la République centrafricaine, qu'il devait être en train d'être jugé par cette session de la Cour, et que ce sont des partenaires internationaux qui ont dit qu'une justice qui risquerait de mettre obstacle à la recherche de la paix ne serait pas une bonne justice et qu'il fallait calmer le dossier de l'affaire Ngaïsona? Est-ce que la Cour pénale internationale était au courant de ça? Était au courant qu'il y avait un dossier de justice centrafricaine qui devrait juger, mais que la communauté internationale, parmi lesquelles la Cour pénale internationale, ont souhaité que les démarches vers la fin de la guerre étaient plus importantes qu'un jugement immédiat d'un criminel?
Bon, je suis courant avec le contexte ici, dans le pays. Absolument. Je suis aussi courant avec le concept qu'il n'y a pas de paix véritable et durable sans que la justice ne soit rendue. Il y a beaucoup d'alternatives pour la justice. Toutes les alternatives sont indépendantes, bien sûr. Et dans l'affaire de M. Ngaïsona, la route à ce moment, c'est vers la CPI. C'est la réalité, ok? C'est la réalité. Et oui, je suis courant avec la situation ici. J'habite ici à Bangui. Okay. Je ne suis pas aveugle, mais la Cour est une institution purement judiciaire et non politique. Les politiques doivent jouer leur propre rôle, oui, bien sûr. Pas de paix véritable et durable sans la justice.
Ok, ben est-ce qu'il peut y avoir une meilleure justice quand celle-là qui est en ce moment appliquée par la Cour pénale internationale risque de compromettre le processus de la paix en Centrafrique?
C'est une question politique.
Vous ne pouvez pas répondre à cette question.
Oui, ça veut dire que la CPI fait une justice à deux vitesses.
À deux vitesses.
Justice à deux vitesses. La justice des vainqueurs, la justice contre les faibles, parce que Ngassona est considéré comme le maillon faible, le justiciable. Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que la CPI peut nous dire que dans les jours à venir, on va mettre la main sur les chefs rebelles de la coalition Séléka qui continuent de massacrer à Alindao, à Ipi, à Batangafo, un peu partout sur le territoire national? Ils occupent 80% du territoire national. Est-ce que la CPI est en mesure de nous dire qu'après Ngassona, les chefs de la Séléka seront arrêtés et mis à la disposition de la CPI?
La réponse est simple. Hier soir, Madame Fatou Bensouda, elle a donné vous la réponse. Elle a dit, comme elle a dit plusieurs fois, sa mandat, c'est ouvert et elle regarde très proche la situation ici. Simple.
Ça ne rassure pas le peuple centrafricain
encore. Elle a fait cet communiqué de presse encore une fois hier soir.
Oui, nous avons vu le communiqué de presse de Mme Fatou Bensouda qui stipule que voilà, c'est un processus et qu'elle ne lâche pas cette procédure-là de continuer de traquer les auteurs des différents crimes en République centrafricaine. Le communiqué est publié, nous l'avons vu. Mais là, la question d'aujourd'hui, justement, s'il faut faire maintenant une comparaison avec la situation Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'on peut qualifier M. Ngaïsouna comme un chef de guerre, hein, quelqu'un qui n'a même pas constitué le corps qui le coordonne aujourd'hui, comparativement au Kabimba, qui est lui-même chef opérationnel de sa troupe, le MLC?
Pour moi, j'ai trouvé dans mon vie, c'est toujours meilleur pour laisser l'argument, le processus pour la Chambre. Okay? C'est facile pour avoir le point de vue, le commentaire, mais c'est la preuve qui est importante. Et la place pour cette dialogue, c'est dans la Chambre. C'est ça, c'est fait.
Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'un danger guette la République centrafricaine, qu'un danger guette le régime de M. Touadéra lorsque certains leaders de groupes armés sont en train d'être arrêtés alors qu'il y a un processus de paix en cours, magistrat Joseph Bindoumi?
Non, je crois que nous avons été très naïfs parce que lorsque vous traitez avec la communauté internationale, ce qu'il faut faire, c'est de mettre votre propre souveraineté avant. Et puis, c'est quand vous avez mis votre souveraineté avant que toute partie d'une convention ou toute partie internationale, si cette partie internationale transgresse votre souveraineté, ça veut dire que cette partie n'a pas de respect pour votre pays. Donc je pense que nous, on devrait nous asseoir autour de la table, dire à la Cour pénale internationale, nous avons une Cour pénale spéciale, nous avons nos cours et tribunaux, nous pensons que nous sommes capables de juger ces gens d'affaires. Et à partir de ce moment-là, si malgré tout, la Cour pénale internationale, pour entraîner des troubles, se permet de traverser cette ligne que nous avons traversée. À partir de ce moment-là, on verra. Mais si nous acceptons tout de la communauté internationale, il y a de fortes chances que nous vendons de cette manière-là notre propre souveraineté.
Oui, je vois que vous insistez beaucoup sur les tribunaux nationaux, alors qu'on a une Cour pénale internationale qui a insisté depuis plus d'un an et qui peine à lancer ses premiers procès.
Oui, vous savez ce qui s'est passé. Je veux dire aujourd'hui, je crois que la Cour pénale internationale m'écoute. C'est que la justice que nous avons voulu hybride était une justice qui est venue pour freiner. Vous savez, nous avons crié sur vos antennes que le système qui est utilisé à la Cour pénale internationale est un système anglo-saxon, qui est le système qu'on appelle le système accusatoire, qui veut que chacun amène des preuves, l'autre amène des preuves, et ça traîne. On a mis 8 ans pour arrêter les infractions contre Bemba, et on a mis 10 ans pour constater que il n'était pas coupable. Et aujourd'hui, la République centrafricaine cohabite deux procédures pénales. Les règlements de procédure et de preuve qui est fondé sur le système anglais et le code de procédure pénale qui est fondé sur le système centrafricain. De telle sorte que la Cour pénale spéciale aujourd'hui vous lance quelque chose qui n'existe pas dans notre code de procédure pénale, qui sont la stratégie de poursuite, d'enquête et de jugement. Ça n'existe pas. Et donc, on va traîner par ces genres de choses pour prendre le même rythme de travail que la Cour pénale internationale et se rendre compte que, et ça c'est des violations des droits humains, vous détenez quelqu'un pendant 8 ans pour enfin lui dire qu'il n'a commis aucune faute. Ça, c'est d'abord lorsque les détentions sont trop longues, ça devient des détentions arbitraires. La justice, quand on vous prive de votre liberté, on doit être capable de vous dire dans un délai raisonnable ce qu'on vous reproche. Mais quand on vous détient 5 ans, comme Gbagbo, pour vous dire à la fin qu'on peut vous laisser en liberté provisoire, ça veut dire que ça, c'est des abus, des violations des droits de l'homme. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, ces longues procédures qui permettent de punir les gens alors que leurs fautes ne sont pas encore reconnues, ça, nous ne sommes pas d'accord avec.
Ouais, merci, Machessa, Joseph Bindoumi. Oui, oui.
À propos de souveraineté, je voudrais dire qu'il y a des États qui ne sont pas partis de la CPI, comme en l'occurrence les États-Unis.
La Russie,
Israël,
oui.
Hein, n'est-ce pas? Et comme il y a des États africains qui sont en train de vouloir dénoncer...
Burundi.
Oui, comme le Burundi, le Kenya, l'Afrique du Sud, qui veulent dénoncer leur convention avec le traité de Rome. Et donc, parlant de souveraineté, je crois que le magistrat Bindoumi, mon collègue ancien ministre, a parfaitement raison. Il faut que notre souveraineté nous serve à quelque chose. Il ne faut pas continuer de s'enrhumer quand la CPI tousse. Ou de tousser quand la CPI s'enrhume. Parce que nous nous aplatissons. À chaque fois, nous nous aplatissons. Il faut que nous usions de notre souveraineté pour en faire un élément de notre propre puissance. Nous sommes capables d'organiser nos institutions pour qu'elles soient fortes, notamment les institutions judiciaires, pour juger nos citoyens nous-mêmes. Et c'est ça la souveraineté. Et non répondre à chaque fois aux injonctions de la communauté internationale qui a d'autres intérêts.
Alors, ce message, est-ce que la CPI l'entend? C'est-à-dire laisser la marche d'exercice de la souveraineté des États. La
souveraineté de signer le même statut est absolument spécifique pour chaque État. 123
États membres.
Nous avons 123 membres, États partis de la Rome Statute. 33 États africains.
Africains,
19 Asia-Pacifique, 18 de Europe, 28 de American Caribbean. Partout. Est-ce qu'il y a les autres pays qui ne sont pas signatories ou ne sont pas dans le statut de l'homme? Oui, bien sûr. C'est la souveraineté. C'est la fonction de souveraineté. Mais quand vous avez signé le statut de Rome, vous êtes au-dessus de la rule of law.
Merci à vous, Monsieur Michael. Nous arrivons ainsi au terme de ce débat Patara sur Radio Ndekeluka, qui, je le rappelle, a été consacré au mécanisme de fonctionnement de la Cour pénale internationale dans le contexte de l'arrestation de Patrice Edouard Ngaïsona le mercredi 12 décembre 2018 en France. Mes invités étaient Monsieur Gaston Makuzangba, ancien ministre, président de l'Action républicaine pour le progrès, en abrégé ARP, magistrat Joseph Bindoumi, ancien ministre, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, et Monsieur Mike Cole, chef de bureau de la Cour pénale internationale en République centrafricaine. Herman Nambouna à la technique, Hippolyte Marbois à l'animation, vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une autre thématique.